Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous, on est dans le Rendez-vous Jeu et on va vous résumer toute l'actu qui a eu lieu ces deux dernières semaines avec notamment Apex Legends, qui fait une sortie inattendue et un succès inattendu. On va vous parler un petit peu d'informations qu'on a eues pendant les bilans financiers, mais juste les trucs intéressants, c'est promis. On va vous parler aussi de Rage 2, de Valve et Metro et Epic, de un petit peu d'Activision Blizzard, de Marshmallow, de plein de choses. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir d'animer cette émission pour vous toutes les deux semaines. Et j'ai en plus aujourd'hui plaisir bonus d'accueillir Mylène Lourdel, alias Konala, qui revient dans l'émission pour décortiquer l'actu avec moi. Comment ça va, Mylène? Je connais déjà la réponse,
bien
en fait.
Bien, toi? Malade, mais ça va.
Écoute...
Ça doit t'entendre, j'ai une voix beaucoup plus grave que d'habitude.
Oui, c'est... Je plaisantais avant le début de l'émission, c'est la voix... Moi un petit peu et toi beaucoup, on a la voix des chanteuses de jazz des clubs enfumés où on a la voix hyper grave et ça donne tout son sel au jazz aux mélodies de jazz qu'on chante pour nos auditeurs. Et en plus on devait avoir Oscar dans l'émission et sa fille est malade. C'est vraiment un épisode d'hiver quoi, tout le monde est malade. Bon, on va essayer d'y arriver quand même. Tu me disais en plus que tu perds ta voix de temps en temps, tu t'es enroué et tout.
Oui, mais ça va aller. On va croiser les doigts.
On espère. Ben merci en tout cas d'être là quand même, malgré ton épreuve. Et donc, on va commencer avec le jeu qui a été la grande surprise de la semaine dernière. Un petit peu surprise pour tout le monde, puisqu'il est sorti à moitié de nulle part. C'est bien sûr Apex Legends, dont je pense aujourd'hui... Tout le monde ou tous les joueurs ont entendu parler et qui a un petit peu conquis à la fois Twitch, YouTube, etc., etc. Il a à peine une semaine, donc il n'est pas certain que ça dure très longtemps, mais il est également possible que ça dure parce qu'il a beaucoup de choses pour lui. Je pense qu'il y a deux choses intéressantes à décortiquer là-dedans. D'une part, le succès du jeu en lui-même, au niveau de ce qu'il est. Et puis d'autre part, l'aspect communication. Et comme toi, Konala, la communication, c'est un petit peu ta spécialité. Je pense qu'on va commencer par ce sujet-là. Si ça te convient. C'est vrai que je t'ai même pas présenté en fait. Si les auditeurs te connaissent pas, tu peux en quelques mots nous dire ce que tu fais.
Globalement, de la communication et du marketing pour des jeux vidéo, essentiellement sur des studios indépendants maintenant.
Et donc, je pense que ton expertise et tes habitudes vont nous être utiles pour ce jeu-là, parce qu'il a utilisé en fait, j'ai l'impression, presque une communication de jeu. Presque de jeu indé, de jeu mobile, pour un jeu qui est peut-être un petit peu plus ambitieux que ça. Alors, c'est un jeu...
Alors, pas de jeu indé.
Pas de jeu, ouais.
Si t'as un jeu indé et que tu dis « Coucou, on sort aujourd'hui », tout le monde s'en fout. Sauf si t'as déjà...
Un passif.
Si t'es Super Giant Games, tu peux. Mais si t'es un petit indé qui sort de nulle part, tu peux pas. Au contraire, moi, je dirais qu'il a utilisé une stratégie de communication qui... Pour moi, n'est faisable que par des gros triple A, parce que concrètement, t'as aucun risque. Enfin, t'as pas le risque de se dire, je l'annonce alors que personne n'en a entendu parler. Du coup, personne ne va en parler.
Bah, justement.
T'as Titanfall fois d'avant, t'es Electronic Arts. Si t'arrives et tu dis, coucou, on a un nouveau jeu, il est disponible maintenant, tout le monde va relayer.
C'est vrai que... est-ce que tu peux passer ton micro un tout petit peu en dessous de ta bouche si t'as un micro casse parce que l'épée pop un peu. Mais ouais, c'est vrai. En fait, c'est une stratégie qui est un petit peu une stratégie de jeu mobile, c'est-à-dire... Bon, je vais résumer ce qui s'est passé parce que il y a certains auditeurs qui sont peut-être pas au courant. En fait, Apex Legends est un Battle Royale free-to-play, jusque-là c'est le comble de l'originalité, développé par Respawn Entertainment. Respawn Entertainment, c'est le studio qui a développé Titanfall 1 et 2, les anciens de Infinity Ward à l'époque de gloire de Call of Duty, donc Modern Warfare essentiellement. Enfin, c'est eux qui ont créé la franchise et ils l'ont amenée à ce qu'elle est et renouvelée avec Modern Warfare. Ils ont eu un différend avec Activision et ils sont partis fonder Respawn Entertainment. De là, ils sont mis à travailler avec EA. Titanfall a pas aussi bien fonctionné qu'il aurait pu ou dû. Je vous laisse être juge. Et ils ont développé d'autres jeux. Ils sont notamment en train de travailler sur Jedi Fallen Order qui devrait sortir cette année, toujours pour EA. Ils ont un autre jeu dans l'univers de Titanfall qui est en développement. Et donc, Apex Legends qui a été annoncé et rendu disponible le même jour, au même moment, au moment du stream. Le truc qui est... Oui, vas-y.
Par contre, apparemment, il y a eu une journée presse 3 jours avant.
Alors justement, c'est ce à quoi j'allais venir. Ils ont hyper bien maîtrisé leur communication parce que, bon, c'est vrai que 3 jours avant, personne n'avait entendu parler du jeu. Vraiment, il n'a pas fuité du tout. Mais justement, ce week-end-là, avant le lundi où le jeu est sorti, le vendredi, on va dire, il y a eu une journée influenceur presse où de nombreux journalistes et de nombreux influenceurs, YouTubers, Twitchers, etc., ont pu aller... essayer le jeu. Et évidemment, quand on fait ça, eh ben, l'information leak. Et elle a leaké vers les grands pontes, les connaisseurs, les insiders de Twitter, qui, naturellement, étant un petit peu flattés de savoir que, d'avoir tous les détails, de savoir que ça allait être annoncé, ce que c'était, etc., eh ben, ils ont arrosé la twittosphère, ce qui fait que 2 jours plus tard, tout le monde savait que ce truc qui était censé sortir de nulle part allait sortir. Alors, c'est que 3 jours de lead time vers l'annonce, mais c'est quand même énorme dans un internet où l'instantané est important. Ça c'est l'analyse que j'en fais. T'es d'accord? C'était leur stratégie de faire leaker le truc en invitant tous les influenceurs 3 jours avant?
Pas leur stratégie, mais ils l'ont forcément pris en considération puisque enfin de nos jours tout ce genre enfin tout ça leak, c'est très dur. Enfin, il suffit de regarder à l'E3, hein, combien de jeux sont vraiment annoncés en mode surprise. On les connaît tous, donc le leak est toujours pris en compte, ou s'il n'est pas, c'est une grosse erreur. Mais surtout, ça renforce pour moi leur stratégie de communication. C'est tout le monde en parle alors qu'eux-mêmes n'ont rien annoncé. Enfin, c'est quand même fou.
Ouais.
Mais ça, pour moi, ils pouvaient se le permettre parce que le jeu est bon.
Ouais.
Je pense que faire cette stratégie de com avec un jeu qui n'est pas bon, ça marcherait beaucoup moins, puisque je ne suis pas sûre que la sauce aurait aussi pris. Si les retours des gens qui testent 3 jours avant, c'est « Ah ben, on a testé un nouveau jeu, personne ne le sait, mais en vrai, c'est de la merde », forcément, la sauce prend beaucoup moins bien. Là, le jeu est bon, donc... Les gens en parlaient, les gens avaient envie de parler des nouveautés, de ce qu'il apporte, parce qu'en plus, ce n'est pas qu'un nouveau Battle Royale, il apporte de nouvelles choses et de très bonnes choses pour le genre. Donc, je pense notamment à tout le système de ping, qui est assez impressionnant et qui, pour moi, sera intégré dans d'autres jeux, et notamment peut-être ses concurrents. Mais voilà, enfin. Pour moi, le tout fait qu'effectivement, la stratégie de com était particulièrement adaptée et a marché du feu de Dieu. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, le fait que tout le monde y jouait à la sortie, que c'était le jeu le plus vu sur Twitch, j'aimerais bien connaître leur budget influenceur.
Ben, il y a certainement... Je crois que... Bon, c'est EA, hein, il ne faut pas se leurrer. EA a forcément un budget communication significatif. Et là, vu qu'ils ont tout concentré sur ce week-end, ils ont certainement pu... je pense, moi, qu'ils ont invité les gens à le tester, mais je ne pense pas qu'ils les aient payés pour y jouer sur Twitch ensuite. Ils ont réussi à générer suffisamment d'excitation pour que tout le monde ait effectivement envie d'y jouer. Et cette habileté de soit inciter, soit prendre en compte le fait que ça va leaker et que donc l'excitation monte pendant les 2 jours avant l'annonce, et donc du coup au moment de l'annonce, même quand la chaîne Twitch du jeu a commencé à streamer du contenu, il y avait que des images fixes avec des petits flashs de temps en temps. C'était même frustrant parce que tout le monde était prêt. On était prêt, on explosait, on regardait, on voulait savoir exactement de quoi il s'agissait. Et donc, il y a eu 4 heures de stream fixe. Et quand ils ont enfin donné les détails, bah, avec 3 jours de montée de sauce, c'était parfait parce que tout le monde était prêt, tout le monde regardait. Et dans la foulée, même avant que le stream ne se termine, tout le monde était en train de télécharger le jeu avec un système de distribution et un système de connexion qui a super bien fonctionné. Il y a eu très très peu de problèmes techniques qui ont accompagné le lancement du jeu. Donc une exécution assez parfaite. D'un point de vue de ce lancement communication, j'ai dit, on disait tout à l'heure, c'est un petit peu une communication à la jeu mobile où on l'annonce et il est dispo pour que tous ceux qui veulent puissent aller le récupérer tout de suite. Tu me corrigeais avec justesse en disant que bon, les indés, s'ils font ça, tout le monde s'en fout, donc il faut travailler
mobiles,
un petit peu plus.
Ils font ça parce que t'as pas de presse mobile quasiment ou très peu. Donc quand tu fais monter la sauce, c'est surtout via la presse, via les réseaux sociaux. Les jeux mobiles n'ont pas cet écosystème et cet écosystème-là. L'autre chose que je voulais juste corriger, tu disais les influenceurs et être super content, tu sais, pour The Witcher, pour des extensions de The Witcher, en mode on vous invite dans un château, on vous montre le jeu en avant-première, il y a des animations, les gens demandent à être payés. Donc si les gens demandent à être payés pour ce genre de trucs, crois-moi qu'ils sont payés pour aller faire des avant-premières Electronic Arts.
Ah, tu penses qu'ils ont été payés pour aller essayer le jeu chez EA le 3 jours avant le lancement ?
Peut-être pas tous, mais une partie oui.
D'accord.
C'est sûr.
Ouais, ça fait partie des...
Même pour des événements très cool dans des châteaux, etc., les gens demandent à être payés plus, en plus du défraiement, etc. Alors, pas tous, hein, puisqu'il y a forcément des gens qui vont être... Si tu t'adresses à des gens qui ont énormément aimé Titanfall et que tu leur vends en mode « c'est le nouveau jeu des créateurs de Titanfall », etc., eux, peut-être pas. Mais les grosses stars que tu es obligé d'avoir, que tu veux absolument avoir, notamment les joueurs de Fortnite, les joueurs de PUBG, etc., eux, tu prends pas le risque de pas les payer, en fait.
On a vu notamment Dr. Disrespect, qui est une des grosses personnalités de Twitch. C'est vrai qu'il a un public énorme. Je peux tout à fait imaginer, je sais pas du tout si c'est le cas, mais effectivement, je peux imaginer que lui va dire « Bon, bah écoutez, voilà ce que je prends pour venir tester votre jeu. » Et ensuite, en dire ce que j'en pense. Il est suffisamment gros, même peut-être pour rester honnête, même s'il se fait payer. D'autres sont peut-être dans des stades intermédiaires, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
Après, c'est pas pour ça que pour moi, que la personne qui se fait payer ne peut pas dire que si elle trouve que le jeu c'est de la merde, parce qu'il a pour le coup n'a pas été trop le cas. Après, l'avantage en plus, c'est que de payer des gens, tu peux leur imposer des choses. Donc en payant quelqu'un, tu peux lui dire par contre, on lance le jeu à telle date, on te paye, mais à telle heure pile, tu lances le stream pour être sûr que le jeu soit tout de suite parmi les top Twitch. Si c'est pas le cas, si tu les payes pas et que les gens sont au final emballé par le jeu, mais pas plus que ça, tu vas peut-être avoir des streams un peu dispersés, ça sera plus compliqué d'atteindre ce top Twitch. Là, l'avantage, c'est que tu as les gros de Twitch qui jouent dès le début, tout le monde voit que ce jeu est haut dans la liste, donc tous les streamers vont le streamer, parce que c'est, enfin, souvent, streamer les gros jeux, ça peut rapporter des vues, et tout le monde va s'y mettre, et du coup, de je sais pas, admettons 300 000 vues, tu peux vite passer à 500, 600 000 parce que ça fait c'est pyramidal, quoi.
Ouais, et qu'en plus, c'est coordonné. Et comme tout le monde stream, bah, tout le monde se met à streamer en plus. Effectivement, très intéressant, ouais. Et du coup, bon, là, on est un petit peu dans la situation idéale où la communication a été super bien orchestrée, certainement avec... Comme tu le dis, ce type de manipulation habile. Et en plus de ça, et on en arrive à la deuxième partie de la discussion sur Apex, le jeu a énormément de qualité. Et je crois que... Alors, on est encore qu'à la première semaine de vie du jeu. Donc, il est difficile de prédire ce qui va se passer sur les mois ou peut-être même les années à venir. Mais franchement, j'ai rarement vu un enthousiasme aussi... fort et aussi authentique sur un jeu avec autant de positivité.
C'est un peu le cas pour Fortnite aussi à son lancement, non ?
Je dirais...
lancement du mode Battle Royale.
Oui.
Avec le système de craft.
Il y a un truc qui est un petit peu différent, et là c'est certainement lié aux sphères dans lesquelles j'évolue. J'ai l'impression que pour Fortnite, comme pour PUBG, c'était des gens qui était un petit peu à l'extérieur de la sphère des joueurs, comment dire, des core gamers traditionnels qui étaient emballés. Pour Fortnite, il y avait beaucoup de jeunes. Et moi, quand je parle à mes amis, alors c'est complètement anecdotique, mais quand je parle à mes amis, aux auditeurs, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, bon, moi, je comprends pas trop, ou moi, c'est pas pour moi. » voilà. Et pourtant, sans du tout nier le succès énorme de ces jeux. Pareil, même pour PUBG, il y avait plein de gens qui y jouaient, évidemment, mais les gens auxquels je parle, qui vont être généralement séduits peut-être par un autre type de jeu, ils me disaient « Ouais, moi, je trouve ça un petit peu chiant. » C'est trop long, c'est trop lent, c'est trop cassé comme jeu. Ça, je veux dire, il a trop de bugs, etc. Moi, ça me plaît pas. Et là, sur Apex Legends, en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne aussi bien, c'est que c'est enfin un Battle Royale pour les joueurs, entre guillemets, normaux, qui, je le répète encore une fois, ne sont finalement pas la majorité des joueurs. Donc, c'est peut-être pas les joueurs normaux, mais je veux dire les joueurs comme nous, peut-être les auditeurs de cette émission. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs de PUBG parmi les auditeurs de cette émission, mais c'est juste un jeu normal. Tu l'installes, il marche, tu comprends comment ça marche, parce que peut-être t'as un petit peu essayé PUBG et Titanfall, Fortnite. Donc, t'as un vague concept de ce que c'est que le Battle Royale. Donc, c'est un petit peu moins abrupt que les premières fois que t'as essayé. Mais en plus de ça, il se contrôle hyper bien. La manipulation est hyper simple. Vas-y.
C'est un FPS en plus plus classique. Enfin, c'est vraiment première personne, quoi. Là où les autres Battle Royale, c'est pas le cas. Enfin, pour moi, en fait, il s'appuie sur deux choses. Il s'appuie sur, malgré tout, la réputation de Titanfall auprès des joueurs de jeux vidéo. Même si le jeu a pas marché, quand on parle de Titanfall, la plupart des gens qui en ont entendu parler vont se dire oui, il paraît que c'est un bon jeu, que le feeling des armes est cool, etc. Donc, forcément, quand t'arrives avec un titre où le point central, c'est tout ce qui est visé, tout ce qui est feeling des armes, etc., bah oui, forcément, ça aide. Et en plus, il reprend des codes du Battle Royale, mais pas que. Le fait d'avoir des légendes, ça fait très penser à
Overwatch,
League of Legends, à du Overwatch.
League, oui, c'est ça, oui.
Donc, il reprend pas que les codes du Battle Royale, il reprend les codes de d'autres genres très, très connus qui marchent beaucoup. Et pour moi, c'est aussi ça qui aide énormément.
C'est certain, oui. Il a son héritage qui se sent de Respawn et de Call of Duty. C'est-à-dire que c'est pas que c'est Call of Duty. Et d'ailleurs, Blackout avait fonctionné aussi et tout le monde en disait les qualités, le mode Battle Royale de Call of Duty. Mais là encore, il a pas vraiment dépassé son terrain naturel de chasse, finalement, parmi les joueurs. Là, Apex Legends, c'est un petit peu plus. C'est un jeu un petit peu plus... c'est juste un FPS qui fonctionne super bien et le feeling est super bon et on sent la maîtrise supérieure d'un studio comme Respawn qui a une expertise dans tout ce qui touche à ce jeu-là qui est au-dessus, à mon sens, de la plupart des autres studios. Et tu parlais tout à l'heure du système de ping, ça c'est à mon sens... caractéristique de l'expertise en game design de ces développeurs-là et de leur talent, le système de ping est génial. Mais enfin, c'est un truc qui est... C'est du ping contextuel, c'est-à-dire qu'on va pointer vers un objet qu'on voit devant nous, ou une personne, ou quelque chose. On va envoyer le ping et ça va communiquer à notre équipe l'information qu'on voudrait communiquer si on pouvait taper ou parler et parce que c'est contextuel. Si on pointe sur un ennemi, bah ça va dire vas-y,
on peut tout pinguer, c'est-à-dire qu'on peut dire, on peut pinguer je regarde par là, on peut pinguer j'ai besoin de tel type de balle, on peut tout pinguer, c'est-à-dire qu'on peut faire une partie extrêmement coordonnée sans jamais allumer le vocal.
Et pourquoi c'est important ? Parce que il y a des choix de design vraiment forts dans ce jeu-là. On ne peut jouer qu'en escouade. Il n'y a pas de jeu solo ou duo ou je sais pas quoi. C'est on joue à trois et c'est tout. Il y a donc les différentes légendes, les différents personnages qu'on peut choisir. C'est un gros point de quoi, pardon ?
Un gros point en termes de communication qui est extrêmement fort, parce que t'arrives sur Apex, tu vois qu'on joue qu'en team, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dis à tes amis, hey, vous venez jouer avec moi, il y a ce nouveau jeu qui est sorti.
C'est vrai que c'est un atout de ce point de vue-là aussi. Les armes sont hyper bien conçues, le feeling de sauter, de glisser, tout le jeu. Le son, je ne sais pas si vous avez fait attention un petit peu au son, il est hyper satisfaisant. Tout est hyper bien fini, ce qui d'ailleurs en vient à encore un autre aspect des Battle Royale souvent, c'est qu'ils sortent pas finis, et beaucoup de jeux d'ailleurs sortent pas finis. Celui-là, bon, il y a une quantité de contenu relativement limitée, il n'y a que 8 légendes, donc 8 personnages, on s'imagine que ça va augmenter ensuite, c'est dans l'univers de Titanfall, mais il n'y a rien du tout avec les titans, les robots géants qu'on pouvait construire, là aussi on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des events de temps en temps avec ce genre d'éléments inclus dans le truc. Et puis de quoi aussi ?
Il n'y a qu'une carte.
Oui, il n'y a qu'une carte, effectivement. On peut imaginer qu'il y en aura d'autres, même si ce n'est pas sûr. Fortnite se débrouille très bien avec une seule carte. Il y a finalement... Mais tout ça n'est pas si important parce que le jeu a l'air fini. Ce qui est là est parfaitement fonctionnel et polished. C'est peaufiné, ça fonctionne et ça donne envie. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vu une quantité incalculable de retours, le mien y compris, disant... Les Battle Royale, c'est pas pour moi, j'ai jamais été fan, j'ai jamais accroché, et ben là, j'ai envie d'y retourner. Et c'est sans doute tout cet ensemble de choses dont on a parlé, de la hype à l'agrément de jeu, qui contribue à faire qu'il y a une sorte d'emballement et tout le monde est séduit. Et c'est quelque chose de totalement exceptionnel. On arrive là, en 72 heures, à 10 millions de joueurs qui ont essayé le jeu. Ce qui est quand même monumental. Alors, on ne sait pas si ça va continuer sur cette trajectoire, comme on le disait au début, mais c'est un succès... Enfin, c'est vraiment un sans faute, j'ai l'impression. On a divisé entre communication et jeu lui-même, mais il y a vraiment un sans faute qui pourrait mener à quelque chose d'encore plus réussi sur le long terme, quoi.
Il y a une chose qui est... Alors, je ne saurais pas l'expliquer, mais contrairement aux autres Battle Royale, même quand je perds et que je fais rien, je m'amuse. Et ouais. Je ne saurais pas expliquer le pourquoi et qu'est-ce qui est différent, mais même quand tu fais une partie où tu n'as fait que 20 dégâts, et que tu as fait zéro frag et que tu sais que tu as été mauvais, mais tu as quand même passé une bonne partie.
Ouais, c'est toutes mes parties à moi, hein, juste pour préciser. Zéro frag et 20 dégâts, c'est ce que je fais généralement. Et je suis content quand je fais les 20 dégâts.
Déjà, ça soit à 60 et à 100, enfin au lieu de 100, ça réduit quand même le temps. Et surtout, l'enchaînement des parties est extrêmement rapide. Mmh. Et du coup.
Il ouais, n'y a pas toutes ces conneries de « on est dans le lobby et on se tape dessus, on sélectionne, on choisit notre perso et boum, on est dans le truc. » Il y a un bouton pour jouer, c'est direct.
Ouais, et du coup, je pense que l'enchaînement diminue la frustration. Parce qu'on sait que même si on n'a rien fait à cette partie, qu'elle a duré 1 minute 30, mais c'est pas grave, dans une minute, on est déjà dans une autre partie.
Ouais.
Et ça, c'est pareil, je pense que c'est un gros point fort de leur jeu et ils ont bien, bien fait les choses.
Et c'était déjà le cas dans les autres Battle Royale. Mais là, ils ont streamliné la chose à un point qui est extrême, quoi. Et il y a encore, on pourrait en parler très longtemps, il y a d'autres choix qu'ils ont faits qui sont intéressants, mais vas-y, Marie.
Je voudrais juste faire une petite minute de silence pour Anthem. Parce qu'avec la sortie d'Apex Legends, ça va être compliqué de trouver des joueurs, surtout que là, les serveurs ne sont pas en carton.
C'est vraiment surprenant ce choix d'IA parce que Anthem, évidemment, on en a parlé la dernière fois et il sort dans 2 semaines, il sort dans 4 jours pour les gens qui ont accès anticipé avec l'abonnement IA. Et alors la seule explication que je pourrais avoir, disons qu'il y en a deux, c'est soit Respawn et BioWare sont tous les deux en train de dire oui mais enfin... Nous, rien à foutre, on sort quand on est prêt, donc voilà. Et on ne se préoccupe pas du reste, ce qui est possible. Peut-être que d'un autre côté, EA a les données démographiques sur les gens qui pourraient être intéressés par les deux jeux. Et ils disent, ben, Anthem, c'est plutôt des gens qui jouent en PVE. Apex, ça va être les gens qui jouent en PVP. Donc, les deux jeux ne vont pas se phagocyter. C'est possible, mais enfin, clairement, il y a un truc bizarre, quoi. C'est se sortir.
Il y a des joueurs qui font les deux. Mmh. Après, ils doivent avoir des raisons. Peut-être que c'était la meilleure fenêtre de sortie en fonction de la concurrence et que de toute façon, il n'y avait pas le choix de le sortir à ce moment-là. Et puis, s'ils l'ont fait, ils ont bien conscience que c'est potentiellement un risque pour Anthem. Donc, soit ils se sont dit qu'il y avait des données suffisamment importantes qui se disaient oui, il y a un risque, mais en même temps, il faut vraiment qu'on le sorte à cette fenêtre-là, on n'a pas le choix. Mmh. Soit ils étaient en mode, de toute façon, Anthem, vu les retours, c'est déjà un peu foutu pour eux. Tant pis, quoi.
Ouais, à mon avis, ils ont trop investi dans Anthem pour se dire ça, mais c'est
après,
sûr qu'il y a...
Après, ça va dans ce sens-là, parce qu'on se rappelle quand même que Respawn avait un peu été la victime de ça, avec Titanfall qui sortait en même temps que 2 autres FPS.
Ouais, il y avait Battlefield et je sais plus lequel, ouais.
EA, en fait. Donc, EA avait un peu sacrifié Titanfall, à mon sens, avait, en le sortant à la même période que Battlefield, mais en se disant, on va prendre de la part de marché sur du... c'était Call of Duty qui sortait à cette époque-là.
Bon, il y avait donc, Call of Duty et Battlefield quasiment en même temps.
C'était, bah, on va piquer plus de parts de marché à Call of Duty en ramenant des joueurs sur Titanfall et Battlefield, mais au risque de sacrifier un peu Titanfall, puisque Battlefield était quand même une plus grosse marque. Et pour cette fois-ci, bah, c'est Respawn qui en profite un peu.
ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, Respawn doit avoir quand même les coronets, parce qu'ils ont... Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas le choix dans la décision de quand le sortir, mais pour le coup, ça se passe bien pour eux. Mais a priori, c'était pas eux qui étaient donnés gagnants, parce que Anthem, c'est une énorme machine avec une énorme machine marketing derrière depuis 2 ans. Apex, c'est un petit truc qui sort en 2 jours. C'est vraiment, enfin bon, ils ont de la chance que ça se passe bien pour eux, et tant mieux, parce qu'ils méritent ce succès. Ils ont vraiment d'excellents. Enfin, c'est une excellente société avec d'excellents designers, comme on l'a dit, mais bon, bref.
Pour moi, Anthem souffre juste de ses problèmes de serveur, en fait. Enfin, là, tu vois, j'avais des amis avec qui jouaient avec Anthem, et ils étaient en mode, mais pourquoi, au bout d'un moment, Electronic Arts ne dit pas des gens de Respawn, allez chez Anthem, faites leur sport, quoi.
Enfin... Oui, c'est sûr que... Bon, pour moi, Anthem a même plus de problèmes potentiels avec des questions de rejouabilité, etc., qui restent nébuleuses. Mais,
qui sont hors, mais rien qu'en termes de technicité, le jeu a l'air plus... Et puis, le jeu est gratuit.
Ça faisait quand même très très mal pour l'image de EA / BioWare, enfin, de BioWare, disons, mais le fait que... justement, Apex tienne avec ses 10 millions de joueurs en 3 jours, aucun problème pour jouer, alors que Anthem, une semaine avant, crachait ses tripes avec la démo, quoi. Donc, bon.
Et je ne sais plus si sur Titanfall, oui, si on remarque, l'avantage, c'est que Respawn, encore une fois, avec du Call of, etc., ils ont l'expérience de joueurs en ligne, quoi. Du joueur en ligne.
Ah, bah oui, c'est sûr. C'est ce que je disais à ce moment. BioWare, ils ont jamais fait ce genre de choses, et mine de rien, oui, il y a IA derrière, oui, il y a machin, mais il faut faire pour apprendre. C'est le genre de truc où tu peux lire tous les livres que tu veux, mais vraiment le faire toi-même, c'est le seul moyen. Ouais.
On se rappelle de Blizzard et Diablo, ils avaient l'habitude, hein, mais pourtant...
La sortie Diablo 3 était catastrophique, et pourtant ils avaient l'habitude de... Donc bon, bref, on va certainement continuer à parler de Apex Legends, et je crois que ce qu'on peut retenir, c'est Apex... Le Battle Royale qui plaît aux fans de non-Battle Royale, quoi. Aux gens qui n'aiment pas les Battle Royale. Mais on en reparlera certainement. Je voulais mentionner que j'ai aussi essayé Realm Royale et que c'est assez sympa. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde veut jouer à Apex, donc je l'avais essayé juste avant. Et en fait, c'est vraiment sympa comme Battle Royale, mais trop tard pour Hi-Rez Studios, puisque maintenant, il y a Apex et que tout le monde est dessus.
Bah, eux, c'est les gros perdants de l'histoire.
Ah bah ils sont malheureusement c'est dommage parce que franchement ils sont pas mauvais les et le jeu a plein de bonnes idées aussi, c'est super sympa, mais bon, il ne peut en rester que pas que un mais que 3 ou 4, quoi. Parlons un petit peu des résultats des différentes sociétés du jeu vidéo qui ont donné leurs résultats trimestriels. Alors, je vais pas, comme d'habitude, on va pas vous abreuver de chiffres, mais juste donner quelques chiffres marquants et peut-être quelques informations qui ont surnagé au-dessus de l'océan d'informations inintéressantes. D'abord, le chiffre des ventes de Red Dead Redemption 2. 23 millions de copies en sell-in, pas en sell-through, donc c'est les copies distribuées mais pas encore vendues au consommateur final. Pas forcément vendues au consommateur final, c'est un chiffre qu'on utilise de temps en temps mais qui est différent du chiffre de vente effective. Il n'empêche que c'est un chiffre évidemment très impressionnant. La bourse, par contre, a répondu de manière négative parce que c'est la bourse et qu'ils attendaient encore plus. Donc, bref, pas forcément besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Je crois que... je ne sais plus si c'était un chiffre nouveau, mais GTA V a atteint 100 millions. Ou c'était peut-être un chiffre qui était ancien, celui-là. En tout cas, tout va bien pour... pour Rockstar et Take-Two. EA, qui était en position assez moyenne, c'était avant l'arrivée de Apex Legends, a déclaré qu'ils allaient continuer à développer des jeux sur les franchises de Need for Speed et de Plants vs. Zombies. Plants vs. Zombies, ça sera peut-être une sorte de FPS, il y en avait déjà eu un, qui était un petit peu bizarre, une sorte de wave shooter compétitif, qui était intéressant, mais voilà, sans plus. Et Need for Speed, dont les deux derniers épisodes étaient assez dramatiques, bah ils sont pas complètement morts, donc ils continuent à développer sur ces franchises. Microsoft Studios devient Xbox Game Studios. C'est un changement de nom qui a peut-être une portée un petit peu plus large que simplement le changement de nom. Il s'éloigne un petit peu du nom Microsoft et se concentre sur la marque Xbox, qui va d'ailleurs s'étendre à beaucoup d'autres choses, puisqu'on a entendu quelque chose d'un petit peu surprenant sur Microsoft et sur la Xbox. Ils vont intégrer plein de plateformes à leur kit de développement Xbox Live. C'est-à-dire que le Xbox Live étant donc le système de Xbox qui intègre tout ce qui est liste d'amis, achievements, communication entre les amis, etc., leur kit de développement va intégrer les plateformes iOS, Android et Switch, en plus du Xbox et du PC qui existe déjà. C'est la politique de Satya Nadella, le président de Microsoft depuis 5 ans, d'infiltrer toutes les plateformes, d'être partout pour Microsoft, pour les services de Microsoft, pour Office, etc., etc. Et donc, il semble vouloir l'appliquer aux jeux aussi. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas, ça voudra dire que sur Switch, on va avoir en fait notre liste d'amis Xbox accessible pour les jeux qui l'intégreront. C'est bizarre, il y aura aussi tout un élément de cross-plateforme, de cross-plateforme pour jouer contre des joueurs sur d'autres plateformes, pour communiquer avec eux, le cross-save, etc. Donc ça s'étend encore. Et enfin, la dernière info, et puis je te donne la parole, Mylène. Nintendo a annoncé que ils devaient réduire leurs prévisions pour les ventes de Switch sur l'année. Ils avaient espéré en vendre 20 millions. C'est une prévision qu'ils avaient augmentée un petit peu en début d'année, si je ne m'abuse. Et ils ont dû la réduire à 17 millions. Ça, c'est un truc qui... Enfin, quand on avait vu les chiffres il y a 3 ou 4 ou 5 mois, moi, je pensais difficile le fait d'atteindre les 20 millions malgré l'immense succès de Super Smash Bros. Ultimate. Et bien, il semblerait qu'effectivement, c'était trop difficile vu le line-up, comme on s'en doutait. Ils ont revu leurs estimations à 17 millions au lieu de 20 pour l'année qui se termine en mars, fin mars 2019, puisqu'on parle d'année fiscale et pas d'année calendaire. Donc voilà pour tout ce que j'ai retenu de tout ça. Est-ce que tu as des commentaires? Tu peux choisir ce dont tu veux parler, Mylène, n'hésite pas.
Ben non, enfin, moi concrètement, le gros truc de cette dernière semaine, c'était Apex Legends, dont on a déjà parler 18 000 fois.
Oui, et qui après, a fait remonter le cours de l'action EA en deux jours. C'était ouf, c'est bon, en fait, tout va bien.
Ah ouais, ça, j'ai pas suivi. Mm-hmm. j'ai pas vu ça. Mais non, après, moi, enfin, les triple A, je regarde ça vite fait, mais c'est pas ce que je regarde le plus. Donc, non.
Moi, d'accord. On va continuer donc avec nos petites news. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, il semblerait que EA soit déjà en train de s'intéresser à l'idée de porter Apex Legends sur mobile, ce qui est pas surprenant puisque, comme on en parle souvent dans l'émission, les Battle Royale, même s'ils sont gros sur console et PC, c'est sur mobile qu'ils font 80%, les trois quarts ou plus de les trois quarts de leurs utilisateurs. Donc c'est pas
et
si
et les chiffres étonnant. Là-dessus.
Oui, alors on a des chiffres sur Fortnite et sur PUBG. Je les ai plus en tête, mais on est de l'ordre de genre 40 à 50 millions de joueurs sur les plateformes de core gamer classique, PC, console, et on est de l'ordre de 300 millions sur mobile. Donc vraiment, on n'est pas du
en
tout.
Fait, ouais, après, enfin pour moi, c'est surtout pour atteindre certains marchés. Par exemple,
ah bah bien
je suis curieux
oui.
de savoir en Europe, mais oui, s'ils veulent se développer dans les pays asiatiques, par exemple, avoir une version mobile, c'est obligatoire.
Évidemment, évidemment, oui. Mais bon, il n'empêche que c'est vrai qu'ensuite, quand on parle de différents marchés, on ne parle pas du même type de revenus. Ça devient, il y a plein d'autres questions qui commencent à se poser. Mais je dis souvent que Fortnite et PUBG sont des jeux mobiles. Si on voit où sont les joueurs, beaucoup plus que des jeux comme nous, on les considère console machin. Et Apex Legends a tout à fait le même potentiel. Donc, il n'est pas surprenant qu'ils considèrent la chose.
Il faudra voir surtout comment ils le font. Fortnite, tout est lié, il y a un seul système de passe, c'est le même jeu. PUBG Mobile, ce sont deux marques différentes.
Complètement.
Qui ont des noms différents du système de Royal Pass, qui ont pas les mêmes serveurs, qui ont de communication ultra différenciées. Si tu vas sur le site de PUBG, il y a même pas, on te parle même pas de PUBG Mobile, quoi.
Et donc, d'ailleurs, PUBG, ils sont en train de développer une version light de PUBG, qui serait une version de PUBG, mais encore différente, avec un autre truc de progression, etc., qui serait a priori destinée PC Bang, au cybercafé, etc., et peut-être à unifier mobile et PC. Pas impossible, mais bon, c'est encore une autre un autre sujet qu'on développera peut-être un autre moment. Mais
il y a une ou deux news qui m'avait marqué, donc j'y repense.
Vas-y. Oui.
Il y a la création d'un studio ad hoc studio par des anciens de Telltale.
Ah oui, j'ai oublié de la noter dans les notes. Tout à fait, ouais.
Qui parle de jeux narratifs, mais qui regarde surtout du côté de ce qu'a fait Netflix avec le
Bandersnatch.
Ouais, Bandersnatch. Donc je suis assez curieuse de voir le type d'expérience qu'ils vont vouloir proposer là-dessus. Surtout,
oui, et puis
alors,
ça fait.
J'ai pas regardé Bandersnatch, mais il paraît que c'est assez moyen au final.
Ouais, mais ce qui fait plaisir, c'est que c'est les développeurs de Telltale qui se sont. Bon, on connaît l'histoire de Telltale, et là c'est une grosse partie d'entre eux visiblement qui s'est réunie pour créer un nouveau studio, et on espère qu'ils vont pouvoir développer les concepts qu'avait introduit Telltale sans commettre les erreurs. Qu'on a détaillé.
Alors attention, ils étaient partis quand Telltale s'est effondré. Hein. C'est les trois.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui.
Partis au début des 2017, même en 2016. Donc,
tu veux dire avant la chute de l'année dernière, quoi.
Ouais, ils étaient partis. Ça faisait déjà 2 ans qu'ils étaient partis de Telltale, en fait.
Oui, mais je me trompe peut-être, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont récupéré justement les développeurs de Telltale qui ont dû partir au moment de la fermeture de la boîte, non ? Je me trompe peut-être ?
Mais j'ai juste vu que c'était trois anciens qui étaient bien placés chez Telltale, notamment directeur narratif, etc. Donc, mais j'ai pas eu d'infos sur les employés. Et l'autre chose, c'était toutes les rumeurs à propos de Micromania aussi, qui ont enflammé la toile pour qu'au final, on dise non, malgré les trucs de son propriétaire, Micromania va bien et ne ferme pas.
Effectivement, c'était dû au fait que GameStop, qui est la société américaine qui a racheté Micromania il y a un moment, en fait, était en recherche d'un repreneur pendant plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans. Et au final, ils ont arrêté de chercher un repreneur parce qu'ils se sont rendu compte que personne voulait d'eux. Donc, ça a évidemment fait chuter l'action et ça a enflammé les rumeurs de fermeture de Micromania en France spécifiquement. Et Micromania a déclaré « Non, tout va bien, on continue ». Je crois que, bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer demain, et peut-être qu'ils n'ont aucune intention de fermer, mais leur business est évidemment en difficulté, comme le business de GameStop. Ça ne veut pas dire que ça va bien pour eux, quoi. Malgré les annonces optimistes, ça ne veut pas dire qu'ils vont se fermer demain, mais ce n'est pas non plus la joie, quoi.
Les annonces ont été un peu vite en besogne.
C'est sûr. On dirait presque qu'on est sur Internet. On a quelques autres news qu'on voudrait évoquer. Décidément, c'est l'épisode où j'oublie de parler de certaines choses d'Apex. J'ai dit qu'on était malade au début, hein. Mais je voulais mentionner aussi le fait, le business model d'Apex Legends, qui est en fait, c'est amusant parce que ils ont vraiment mis toutes les monétisations possibles dans le jeu. Ils ont mis des loot box, la possibilité d'acheter des trucs directement, et les battle pass qui vont être implémentés pour les saisons qui vont durer 3 mois à partir de mars, donc il y en aura 4 par an, logique, qui amèneront des nouveaux héros, des nouveaux événements, des nouvelles armes, plein de nouveaux trucs. Mais Il y aura aussi donc un Battle Pass à ce moment-là, en plus des lootbox, lootbox uniquement cosmétiques. Donc c'est disons la version la plus saine des lootbox. Et les héros qu'on peut acheter, on peut aussi les débloquer en jeu, en jouant. Selon les estimations de la plupart des gens, c'est environ une dizaine d'heures de jeu permettent de débloquer un héros. Donc ça reste faisable.
C'est pas mauvais.
Pardon ?
Ça dépend à quel point t'es mauvais, parce que plus t'es bon, plus tu XP vite.
Ouais, mais en même temps, l'XP est surtout gagné avec le temps que tu survis. Ce qui veut dire que bah, si tu survis pas longtemps, t'as gagné moins d'XP, mais tu relances la partie plus vite. Donc oui, ça va te donner plus d'XP si tu gagnes, etc. Mais dans l'ensemble, c'est pas que ça va aller du simple au triple, quoi. Donc c'est relativement...
Même si tu sais pas tirer, ça va.
Tant que quoi ?
Donc tu sais bien te planquer, même si tu sais pas trop tirer, c'est pas grave.
C'est exactement ce que je fais, ouais. Donc j'allais dire c'est relativement juste, mais en fait c'est relativement juste pour les gens qui sont mauvais comme moi et comme Mylène visiblement. Donc on est content. Mais c'est marrant de voir que ils ont tout mis dedans et je sais pas comment. J'en reparlerai peut-être dans un instant, mais je sais pas comment l'expliquer exactement. Je crois que si le jeu avait pas été bien, ce type de pratique aurait été, et s'il était sorti il y a un an et demi, ce type de pratique aurait été un petit peu plus critiqué. Mais bon, on y reviendra peut-être. En attendant, je voudrais dire un mot sur Rage 2. Qui, vous savez, le jeu post-apocalyptique, suite de Rage, plein de trucs dont on pourrait parler, mais il y a une vidéo qui a été publiée il y a une semaine environ, qui montre un petit peu les combinaisons qu'on peut utiliser en combat, et de là que ce jeu, je m'en foutais complètement, voir cette vidéo m'a super hypé, super hypé, j'exagère peut-être un peu, je suis vraiment intrigué par ce jeu. Il y a un tel dynamisme et une telle folie, c'est vraiment l'hystérie du combat à la Doom, mais puissance 3, quoi. À la Doom 2016, mais puissance 3. C'est complètement fou. Il y a des pouvoirs déments qu'on utilise tout le temps. On fait exploser les gens à droite à gauche. On les balade comme des, enfin, avec une sorte de télékinésie. C'est vraiment un truc que auquel je ne m'attendais pas et qui, en fait, m'a plutôt enthousiasmé. Voilà, donc il sort en mai, si je ne m'abuse. On verra à ce moment, mais je crois que ça risque d'être un très bon défouloir. Valve a expliqué qu'il était totalement injuste que Metro Exodus sorte en exclusivité temporaire sur le store Epic. Alors, je résume. Epic a payé pour avoir l'exclusivité temporaire de Metro Exodus après que le jeu ait été disponible en précommande sur Steam pendant plusieurs mois. Bien sûr, ça a fait grincer des dents les gens qui voulaient jouer à Metro sur Steam. Les précommandes seront honorées. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, le jeu sera disponible pour les gens qui l'ont précommandé, et il y aura toutes les extensions, toute la maintenance, etc. sur Steam aussi. Mais depuis cette annonce, il est disponible exclusivement sur l'Epic Game Store, et ce pendant un an. Il y a eu tout un tas de communications de la part du développeur qui est 4A Games, de la part du publisher Deep Silver / Koch Media. Chacun a dit oui, mais non, nous on veut pas ça, mais c'est la décision de un tel. 4A Games a dit nous on voudrait que nos joueurs puissent jouer partout. Valve a dit c'est injuste, les joueurs devraient pouvoir avoir accès au jeu partout. Il y a plein de joueurs qui ont dit ah, mais c'est pas une bonne méthode pour faire jouer la concurrence parce que ces exclusivités sont injustes effectivement pour les joueurs. Personne n'était content dans l'histoire, je crois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mylène, de toute cette histoire ?
Il y a une autre chose qui, pour moi, on ne parle pas assez et que je trouve assez scandaleux. Le jeu a baissé de prix en allant sur Epic Store, notamment parce que Epic prend les plus petits pourcentages. Par contre, le jeu est toujours à 49 $ et 59 €. C'est-à-dire que déjà, un joueur européen, quand le jeu est vendu 59 $, 59 €, il se fait enfler puisqu'il paye son jeu plus cher. Là, il paye son jeu 18 $ plus cher. $17 plus cher. Donc j'aimerais bien comprendre la stratégie derrière ça. Parce que je trouve
Je crois que... Ouais, je crois qu'il y a des éléments de administratifs slash taxation en Europe qui sont différentes. Le jeu, j'imagine qu'il est sans la sales tax qui est différente par État aux États-Unis à ce prix-là. Donc déjà, il faut rajouter en fonction de l'État où tu es. Non, je me trompe?
Oui, non, parce que d'habitude, ils vendent leur jeu $59 et €59. Donc d'habitude, il y a...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Enfin,
bah oui, parce que c'est pas peu importe la taxe, parce que chez Valve il y a le cœur de l'histoire finalement qui est la part de Valve qui est de 30% pour les jeux qui sont vendus sur Steam, alors que comme tu l'évoquais, la part de Epic c'est que 12%, donc la différence se fait là. C'est de là que vient la différence.
Pourquoi ils ont baissé le prix en dollars et pas en euros?
Oui, tu veux dire qu'ils auraient pu, bien sûr. Oui, tout à fait, tu as raison. Excuse-moi.
Si le jeu est à $59, €59 chez Steam, s'il passe à $49 chez Epic, il doit être à €49, en fait.
C'est vrai. T'as raison, peut-être. T'as raison, tout à fait, oui. J'avais mal compris ce que tu voulais dire, t'as raison. Je suis d'accord. Mais à la limite, ça, c'est un souci qui nous préoccupe, nous, joueurs européens. Et en plus, on peut tout à fait imaginer que c'est une pratique que là, ils ont mis en place pour apaiser les joueurs un petit peu, mais qui ne sera pas souvent mise en place par les développeurs. Je pense pas qu'ils vont vendre les jeux beaucoup moins chers sur l'Epic Game Store que sur Steam, une fois qu'on aura pris l'habitude d'aller sur l'Epic Game Store. Moi, ce qui m'a...
Mon avis, c'est que... Alors moi, j'aime pas ça. Parce que pour moi, on doit être meilleur. Et c'est pour ça que les joueurs doivent venir chez nous. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie, c'est que... à la limite, les jeux gratuits, par exemple. Ça me semble correct. Les gens, ils installent Epic Game Store, ils ont des jeux gratos, ils sont contents, ils utilisent la plateforme. Ou même, ils achètent sur Epic Game Store parce qu'ils savent qu'il y a une plus grosse partie de l'argent qui va aux développeurs. Ça me semble faire. Obligé avec une exclusivité temporaire, ça, moi, je suis complètement contre. C'est pas du tout dans ma façon de penser. Et en plus, venant de Metro Exodus. C'est-à-dire qu'autant, venant d'un indé, je peux comprendre. C'est-à-dire que si Epic Game Store arrive et leur dit « Coucou, nous, on te promet tant au minimum sur notre store, viens chez nous », pour un indé qui sont quand même souvent dans la précarité ou qui sortent souvent des jeux tous les 1-2 ans et ils ont besoin que tous leurs jeux marchent, avoir ce coussin de certitude, je comprends que ce soit tentant et je comprends que ce soit des offres qu'on ne puisse pas refuser. Pour un Metro Exodus, ça me semble quand même beaucoup moins justifiable.
C'est marrant quand même, les gens ont l'impression que les gros développeurs ou les gens qui ont un peu plus d'argent aiment moins l'argent que les autres. Si forcément on te dit si tu vends ton jeu à tel endroit, on va te donner 90% des bénéfices, alors que là on va te donner 70%, enfin je sais pas qui...
Ils ont leur prix, donc ils touchent même pas plus d'argent en fait.
C'est quoi, pardon ?
Ils ont baissé leur prix, donc ils ne touchent pas plus d'argent.
En l'occurrence, c'est compensé par l'argent que leur donne Epic. À mon avis, dans le deal, c'était on vous donne l'argent pour...
En fait, c'est ce qu'il y a souvent dans ces deals-là, si tu veux, c'est un système de minimum garantie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de copies que vous allez vendre sur votre jeu, on vous promet tant au minimum. Après, là, vu que c'est un gros jeu, peut-être qu'en plus, ils ont eu de l'argent.
J'imagine, souvent,
ça, c'est on vous garantit, je sais pas, 600 000 ventes. Quoi qu'il arrive, vous toucherez comme si vous avez vendu 600 000 ventes, enfin 600 000 exemplaires du jeu. S'il y en a en plus, vous toucherez l'argent normalement. Mais tu as un système de ce qu'ils appellent minimum garantie, c'est-à-dire qu'on te promet un argent minimum de ce que tu toucheras en mettant le jeu en vente sur ta plateforme.
Ouais, non, mais tout à fait. Mais en l'occurrence, je pense que le deal financièrement est intéressant pour Deep Silver et Koch Media pour qu'ils l'aient fait. Tu vois, et je comprends ce que tu veux dire, évidemment. Dans un monde idéal, Epic se battrait avec ses armes et Steam se battrait avec ses armes et le meilleur gagnerait. Là où, pour moi, il y a une chose que beaucoup de gens oublient, c'est l'importance de l'omniprésence de Steam. C'est bien beau de dire « Ah bah Epic fait ce qu'ils veulent, font ce qu'ils veulent et Steam font ce qu'ils veulent et que le meilleur gagne. » Mais de fait, au-delà des gens comme nous qui arguons de ces sujets et qui connaissons l'Epic Game Store pour tous ces aspects, la plupart des gens, ils jouent sur Steam. Et Steam a un monopole de fait du marché des magasins en ligne de vente de jeux. Et pour moi, le problème de cette exclusivité temporaire achetée par Epic, oui, c'est gênant quand on veut que... Parce que si on n'aime pas les exclusivités temporaires, très franchement, moi, je trouve que la réaction est un peu exagérée. Peut-être dû au fait que c'est un cas particulier, c'est pas juste une exclusivité temporaire. C'est une franchise qui existe depuis longtemps sur Steam, qui était en précommande sur Steam. Ok, je comprends, c'est un cas un petit peu spécial. Mais, il n'empêche... Si Epic ne faisait pas ce genre de deal, l'inertie du marché est telle et le monopole de Steam est tel qu'il ne pourrait pas gagner du terrain de manière raisonnable. Et c'est ça que ça pointe du doigt plus qu'autre chose. C'est les effets négatifs du monopole de Steam. Et ensuite, voir Valve dire « Oh, bah c'est vraiment injuste hein, de leur part », alors que leur monopole leur a permis de facturer 30% sur, je ne vais pas dire extorquer, parce que je ne veux pas faire dans le buzz facile, mais de facturer 30% pour un service qui... on l'a vu, après 10 ans d'existence, était pas marginal, mais enfin, ne valait pas un tiers du revenu généré par les ventes, parce qu'il profitait d'une situation de monopole de facto. Moi, je suis désolé, je trouve ça difficile à avaler. Les voir venir dire « Oh, bah, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire », moi, ça me fait un petit peu rire, quoi. Oui, c'est pas hyper cool de la part d'Epic. Enfin, c'est pas hyper cool qu'Epic ait besoin de faire ce genre de deal d'exclusivité pour réussir à venir arracher de la part de marché à Valve, mais c'est plus une indication de la force du monopole de Valve que d'autres choses. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois plus que... Est-ce que j'étais un peu convaincu ou pas du tout ?
Non, mais on est d'accord que Steam qui se plaint, ça ne
se plaint pas. Oui, mais au-delà de ça, la puissance du monopole de Steam est importante. Quoi.
Le souci dans l'exclusivité, c'est que ceux qui en pâtissent aussi essentiellement, c'est les joueurs.
Mais empathise comment ? Empathise parce que oui, il faut installer un autre store. Ok, il n'y a pas la même liste d'amis. Ok, il n'y a pas les forums, les machins comme ça. Ça arrivera peut-être au bout d'un moment, mais c'est pas non plus une condamnation à mort, quoi.
Non, mais si tu as 2000 jeux sur Steam, que tu veux en acheter un sur Epic, par exemple, qu'il est que là, enfin, ou que tu veux en acheter un sur une promo sur Epic, il faut checker que t'as tes. Enfin, c'est pas pratique et c'est pas user friendly. Et même en fait, de base, moi, enfin. Je n'aime pas qu'on me force à faire quelque chose. Point barre. C'est juste dans ma philosophie, j'aime pas ça. Donc, c'est
oui, mais
ça
si l'alternative, si l'alternative, Mylène, c'est que les jeux doivent être disponibles partout, donc par la force de l'inertie, les gens vont continuer à les acheter sur Steam, et donc Steam va garder sa position dominante et continuer à facturer 30% aux développeurs qui sont obligés de les utiliser parce qu'ils n'ont pas le choix, et que justement, ça doit être pratique, donc ils sont obligés d'être sur Steam, sinon ils sont pas visibles, c'est pas une situation souhaitable non plus.
C'est pas le cas. Enfin, il y a plein de jeux qui ne sont pas disponibles sur Steam et qui marchent énormément. Donc Steam a un monopole, oui, notamment pour tout ce qui est jeux indé, etc. Après, il y a combien de AAA qui ont déjà dit coucou, on se barre et on n'est pas sur Steam. Il y en a plein. Et il marche quand même. Donc, pour moi, le monopole de Steam est gênant sur un point, sur les jeux indépendants. Parce que Steam, comme tu le dis si bien, prend 30% pour concrètement ne rien faire, laisser un algorithme faire en sorte qu'il y a des jeux indépendants très bons qui ne se vendront jamais parce que l'algorithme de Steam les a jamais mis en avant. Et pour moi, donc effectivement, c'est ça la majeure partie du problème, en fait. Et c'est eux qui en bénéficieront le plus de cette concurrence avec d'autres stores, notamment des stores avec une sélection des jeux et de la mise en avant, c'est les jeux indépendants. Mais y aurait d'autres armes, mais le problème, c'est que Steam l'interdit, par exemple. Ce qui me semblerait beaucoup plus faire, mais avec les Steam, on ne peut pas le faire, c'est de dire, OK, bah Steam prend 30%, le jeu, il est à tel prix sur Steam, par contre, il est moins cher sur l'Epic Store, parce qu'ils nous prennent 12% au lieu de 30%. Ça, par exemple, ça me semblerait super faire parce que bah, le joueur choisit. Est-ce qu'il a envie de le payer moins cher mais d'installer un autre truc ou est-ce qu'il veut le garder sur Steam et le prendre plus cher?
Et tu veux dire que Steam interdit de vendre à des prix différents?
En fait, Steam, tu n'as pas le droit de proposer dans les CGU, si je ne me trompe pas, tu n'as pas le droit de proposer des offres plus avantageuses de manière permanente ailleurs. Et même sur les promos, il me semble que sur les promos, si tu fais genre sous moins 65% chez GOG, au bout d'un moment, Steam va dire « Par contre, tu as proposé moins 65% chez nos concurrents, tu vas faire la même chose chez nous. »
Ah mais donc, tu vois qu'il est impossible de se battre dans ce genre de cas. C'est hyper compliqué de faire…
Oui, bien sûr.
Ouais. Donc, pour moi, ça parle plus du monopole de Steam, quoi, et des pratiques de Steam. Et, enfin bon, bref, j'ai fait le tour, mais vas-y, je te laisse conclure et puis on va avancer.
Non, t'as raison. En fait, pour moi, il y a des pratiques qui ne sont pas cool des deux côtés. Donc, oui, au bout d'un moment, pour essayer de te battre, tu fais avec les armes que t'as et l'exclusivité en est une. Mais ouais, à voir comment ça va évoluer, en fait.
Ouais. Bon, autre sujet encore business, décidément, c'est un épisode très business.
Pardon ?
Oui, vas-y.
Juste ce que je voulais dire, tu disais pour les AAA, bien sûr, ils ont besoin d'argent, etc. En fait, pour moi...
Pardon. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils aiment l'argent autant que les autres. J'ai pas dit qu'ils ont besoin d'argent.
La grosse différence entre un indé et un AAA là-dessus, c'est qu'un AAA a beaucoup plus à perdre niveau image. Parce que un indépendant peut justifier... on est allé chez l'Epic Store parce que, vous comprenez, ils nous offraient de l'argent et on travaille à flux tendu. Sans cet argent-là, peut-être qu'on ne pourrait pas faire notre prochain jeu, etc. L'explication est beaucoup plus crédible et, à mon avis, fera moins de mal qu'un jeu édité par Core Media qui va justifier « Ah ben oui, vous comprenez, ils nous offraient un bon deal d'exclus qu'on ne pouvait pas refuser. » Enfin, eux, ils ne peuvent pas justifier comme ça, en fait. Donc, en termes d'image, je pense que c'est plus dommageable pour un gros jeu de partir en exclus sur Epic que pour un jeu indé.
Oui, d'ailleurs, ça s'est ressenti. Je suis sûr que pour une situation similaire, ça ne serait peut-être pas passé de la même manière si ça avait été un petit jeu indé. Bon, admettons que Metro Exodus, ce n'est pas non plus un gros triple A. Moi, je dirais plutôt que c'est un double A. C'est ce genre de jeu intermédiaire, parce que c'est vrai que des gros jeux comme Anthem, comme les jeux Blizzard, comme des jeux de gros éditeurs qui ont leur propre launcher, ils peuvent se permettre de ne pas être sur Steam. Des jeux plus double A, maintenant ils ont cette alternative avec l'Epic Game Store, qui est toute nouvelle. C'était pas le cas avant. Avant, ils étaient obligés d'être sur le Steam Store. On n'aurait pas pu voir, par exemple, un jeu comme Metro lancer le Foray Games Launcher et être ailleurs. Donc, c'est aussi une situation qui est très compliquée pour ce type de studio. Et que les...
L'avantage, c'est qu'on va voir un case study. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On va voir niveau vente. Même s'ils communiqueront peut-être pas sur les ventes, mais on le verra en termes de review, etc., sur le store, ce que ça donne. Et de là, on pourra essayer de comprendre si c'était un bon deal pour eux ou pas, même si on n'aura jamais les sommes d'argent, à quel point les ventes en ont pâti, par exemple. Enfin, si on voit que ça se vend beaucoup, beaucoup moins que les précédentes franchises, c'est qu'on pourra quand même estimer que ça leur a fait mal. L'autre chose qu'il y a, c'est que là, toutes les critiques négatives qu'ils ont prises sur les anciens jeux, c'est fou, quoi.
Ouais, c'est ça qui m'a plus frustré. C'était encore une réaction de joueurs énervés. Je parle souvent des joueurs énervés qui comprennent pas la situation et qui réagissent en fonction de ce qui eux les affecte directement. C'est compréhensible à la limite. On réagit pour ce qui nous affecte. On est un petit peu tous comme ça. Tout le monde n'a pas forcément l'obligation d'aller chercher les raisons derrière. Mais ils ont été faire du review bombing des anciens jeux. Il y a eu toute une campagne de dénigrement. Ça me frustre toujours un petit peu ce genre de réaction. Donc Et en fait, oui, il considérait Epic comme le bad guy dans l'histoire et il venait voler à la défense de Valve, alors qu'encore une fois, c'est Valve qui tient tout le monde en otage. Parce que c'est à la fois les joueurs qui sont obligés d'utiliser Steam et les développeurs. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les consommateurs, c'est machin ». Les consommateurs, c'est oui, bien sûr, les joueurs, mais dans le cas des stores en ligne de jeux vidéo, les consommateurs, c'est aussi les développeurs. Et eux aussi, ils sont clients de ces stores et ils ont des conditions qu'ils sont plus ou moins obligés d'accepter et qui peuvent leur convenir plus ou moins aussi. Et là, Valve dictait sa loi. Donc, voir les joueurs, parce qu'ils ont une petite contrariété, qui, oui, je comprends que c'est une contrariété, mais enfin... Faut pas déconner, je suis désolé, installer un autre launcher, c'est pas la fin du monde. C'est une contrariété que je ne veux pas diminuer, c'est effectivement un petit peu chiant, mais c'est pas qu'on leur a dit « vous êtes obligé de jouer sur PlayStation, par exemple, avec une manette que vous aimez pas, tu vois, c'est... » Bref.
Moi, ça me semblerait vachement plus noble que genre Core Media. Alors, ils le feront pas, hein, parce que c'est une prise de position, mais si demain, t'as un très gros jeu qui dit « bah écoutez, nous, on a décidé d'être sur Epic, certes, il y a de l'argent en jeu, mais pas que pour ça, parce qu'on trouve que le monopole, c'est bon pour personne, et que la seule manière de lutter contre ce monopole, là, c'est disperser plus de joueurs, et pour l'instant, la seule arme, c'est l'exclusivité sur d'autres plateformes. Le discours en termes d'impact et en termes de couilles, ouais. Ce serait quand même vachement plus classe que simplement dire « Ah ben, on retire notre jeu, maintenant, on va juste là-dessus. Mmh. » Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'engagement, en fait. Là, c'est juste une
question. C'est vrai qu'ils auraient pu... Ils auraient pu mieux gérer la chose aussi de leur côté, c'est vrai.
Effectivement, l'engagement c'est bien, mais là pour l'instant ça n'a aucun rapport avec l'engagement, avec le monopole de la façon de penser. Le seul truc qui en a en jeu, c'est de l'argent en fait.
Donc, coup, ah, mais bien moi, sûr, non, rend... mais je suis sûr que genre Koch Media et Deep Silver, et ils n'ont pas réfléchi forcément en termes d'effets à long terme sur le monopole. C'est juste que la situation de monopole fait qu'une société comme Epic est obligée, pour arracher de la part de marché à Valve, d'utiliser l'arme un petit peu gênante de l'exclusivité. Et puis bon, enfin franchement, je vais peut-être me faire des ennemis, mais les joueurs PC qui viennent nous pleurnicher pour des questions d'exclusivité alors qu'ils ont juste à installer un truc, alors que dans le monde des consoles, on sait que c'est un outil... voilà, c'est un outil normal, naturel, classique. L'exclusivité, c'est pour promouvoir ta plateforme. Et bon, bref, encore une fois... toutes ces réactions me paraissent un petit peu immatures, mais il y a beaucoup de ça qui est aussi dû au cas particulier de Metro Exodus, qui est traditionnellement qui a toujours été sur Steam, parce que de fait c'était la seule option, et qui était en précommande, etc. Donc je comprends que ces problèmes rentrent en ligne de compte aussi. Bon, bref. Avançons avec un autre sujet business, comme je disais. Activision Blizzard serait en passe d'annoncer une série de licenciements avec... Bon, on aura les détails demain, donc au moment où vous écouterez cet épisode, ça sera déjà détaillé, donc je vais peut-être pas passer trop de temps dessus, mais on sait qu'il y avait des rumeurs de problèmes chez Activision Blizzard depuis un bon moment, et il semblerait que ça se concrétise aujourd'hui, demain, avec cette série de licenciements. J'en avais beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, j'en parlerai peut-être au prochain épisode quand on connaîtra les détails. C'est difficile de dire exactement ce qu'on pense quand on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. J'irai quand même deux petites choses. Évidemment, moi, je suis historiquement lié à Blizzard parce que j'y ai travaillé et j'aime beaucoup leurs jeux. Et j'avais commenté sur ces choses-là auparavant. Ce que j'irai là-dessus, c'est que moi, l'une des choses importantes que j'avais commenté, c'était que le fait de réduire les coûts pouvait être compréhensible si on n'a pas de grosses sorties qui arrivent du côté de chez Blizzard, et que la manière dont ils réduisaient les coûts, c'était des départs volontaires encouragés par des sommes d'argent substantielles. Et moi, ce que je disais, c'est que si tu veux réduire les coûts, le meilleur moyen de le faire, la manière la plus saine, c'est justement des départs volontaires pour des gens qui ont peut-être envie de faire autre chose, qui sont là depuis longtemps, etc., que tu payes en plus. Donc pourquoi pas Là, c'est évidemment une situation complètement différente. Ça sera sans doute des licenciements. On espère qu'ils ne seront pas secs, mais en plus, on imagine qu'on parle cas aux États-Unis, où on a des problèmes, là on parle limite de politique, mais où on a des gros, des conditions complètement différentes, où les licenciements peuvent se faire sans aucune obligation de l'employeur, où on n'a pas de protection sociale que nous on a évidemment en Europe et en particulier en France. Donc je crois qu'on va appréhender la chose de manière très différente chez les Européens et chez les Américains. On parle de plus en plus dans l'industrie de syndicalisation, de syndicats du jeu vidéo qui est nécessaire. En France, bien sûr, mais aux États-Unis, imaginez à quel point c'est encore plus nécessaire parce qu'il n'y a ni chômage, ni obligation de l'employeur, ni rien du tout. Il n'y a aucune protection. Donc, ils sont vraiment cul nus, les gens qui sont face à ce genre de situation là-bas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment détester Activision et plus récemment qui aiment détester Blizzard sans aucun rapport avec la situation des employés et qui vont aimer taper dessus parce qu'ils n'aiment pas les jeux où ils sont déçus par certains éléments des jeux de Blizzard de ces derniers temps. Et c'est vraiment pour moi deux problèmes complètement différents. Une société qui a un comportement moral complètement critiquable peut faire des très bons jeux. Et tout à coup, les gens vont bien les aimer. On vient de passer, je ne sais plus combien de temps, une demi-heure à parler des qualités d'Apex Legends, qui est quand même publié par EA, qui est sans doute la société du monde du jeu vidéo la plus détestée qui soit, suivie de près par Activision. Mais tout à coup, parce que Apex est bien, bah les gens sont super contents. Et on s'en fout des problèmes moraux dont s'est rendu coupable EA. Tout à coup, tout le monde a tout oublié. Et à la limite, je pense que pour Blizzard, ça sera encore la même chose. Le jour où enfin ils sortiront, parce que rappelez-vous qu'ils n'ont pas sorti de jeu depuis 2016 hein, chez Blizzard, si on compte pas les extensions et les trucs comme ça, le jour où ils sortiront un jeu, si ce jeu est bien, tout à coup tout le monde va les aimer. Si le jeu est pas bien, et ben les gens vont les détester aussi, ce qui sera compréhensible. Mais tout ça est dans l'esprit des joueurs énervés, dont je parle encore. Je crois très déconnecté des vrais problèmes qu'on risque d'évoquer là avec ces problèmes de licenciement, qui sont le comportement moral d'une société qui fait des milliards et qui paye ses executives des millions, tout en renvoyant des gens qui laissent à la rue. Alors on va voir, ça se trouve ils vont dire on a fait des super packages, on le fait pour les actionnaires évidemment parce qu'on va pas beaucoup rentrer d'argent ces prochaines années, mais on a fait des packages, on paye les gens très bien, on a choisi machin, peut-être. Mais d'une manière générale, c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, je crois que les gens qui se préoccupent de ces choses-là, en particulier aux États-Unis, quand on va dire « oui, mais ça, c'est des vrais problèmes de l'industrie et il faudrait une syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo pour équilibrer un petit peu le pouvoir entre les managers et les employés, parce qu'aux États-Unis, les employés, comme ils n'ont pas de protection sociale imposée par la loi et qu'en plus, ils n'ont pas de syndicat pour les défendre », eh ben, ils sont complètement laissés livrés à eux-mêmes. Donc, il faudrait au moins des syndicats. Eh ben, les gens qui vont dire « Oh, Activision pourri, caca, machin », si on va leur parler de syndicats, encore une fois, aux États-Unis, ils vont dire « Syndicats, non mais attends, moi, je suis pas un communiste, hein, non, qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin ?» C'est pas sincère, quoi. C'est juste... bref, je suis en train de partir sur des...
Là, c'est pas un problème de l'industrie du jeu vidéo, c'est un problème des États-Unis. Enfin, c'est le cas dans toutes les industries des États-Unis, quoi.
Tout à fait,
nous,
oui.
On est concerné par le jeu vidéo, mais... Et tu disais, enfin, Blizzard a quand même
J'ajoute juste un autre truc. Il y a aussi les problèmes de crunch, etc., qui pourraient être gérés un petit peu mieux chez nous aussi, avec une syndicalisation des travailleurs du... Mais aux États-Unis, t'as raison, c'est plus large, et ça touche en plus de ça toutes les industries. T'as tout à fait raison. Enfin, encore il y a des industries qui sont très syndicalisées, comme Hollywood, par exemple, et ça marche très, très bien. Et les syndicats sont très corporatistes aux États-Unis. Et les acteurs, les auteurs, les réalisateurs, les monteurs, etc., à Hollywood, hyper syndicalisés. Quand le syndicat, ça arrive pas souvent, mais quand le syndicat dit « maintenant, ça va pas, on va faire ce qu'il faut », ça pète, mais dans toute l'industrie. Donc, c'est encore une fois une situation différente. Mais ça peut exister. Hein.
C'est une industrie aussi avec beaucoup de starification, etc., ce qui est moins le cas des jeux vidéo, par exemple.
Ouais.
Et le crunch, ben, on l'a vu, enfin, à quel point les gens s'en foutent de y regarder juste le jeu, Red Dead Redemption, quoi. Il y a eu des gros articles, des soucis de crunch, machin, des gens qui travaillaient 130 heures par semaine, et puis on disait, ah, mais c'est pas grave, le jeu, il est bon, et il a fait des millions de ventes. Donc, tout le
23
monde
millions.
S'en fout tout le monde s'en fout de ce qui se passe derrière, quoi. Blizzard, le seul moment où ils se sont fait bâcher, c'est quand ils ont annoncé Diablo Mobile, quoi. Enfin, les gens ne regardent que les jeux et le derrière en fait ça a un impact plus long terme. C'est-à-dire que le fait que là Blizzard potentiellement annonce et vire des gens à l'arrache, bah, peut-être qu'ils auront plus de mal à recruter, surtout des Européens par exemple. Pour moi, ce genre de problème de l'industrie de derrière le rideau, ça n'a pas d'impact sur les ventes des jeux, mais ça aura de l'impact à long terme sur des jeux, parce qu'une entreprise qui a une sale réputation, c'est une entreprise qui a du mal à recruter. Et en principe, ceux qui ont le choix dans les entreprises, c'est les gens très bons. Donc pour moi, une entreprise qui a une sale réputation de là-dessus aura de plus en plus de mal à recruter des bons profils, donc aura de plus en plus de mal à recruter à faire des bons jeux.
Il faut vraiment qu'on attende de voir les détails sur ce point, parce que moi, ce dont je me doute...
Mais je parle en général, en fait.
Non, t'as tout à fait raison. Mais sur la situation spécifique là, je pense que ce qui est en train de se passer, je me trompe peut-être, mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que Activision a quasiment plus de jeux à promouvoir. Leur département marketing et PR, etc., ils se tournent les pouces, quoi. Et ils viennent de perdre, en plus de tout le reste, Destiny. Il y a donc une sorte de redondance des équipes communication chez Activision et chez Blizzard. Donc moi, je pense qu'ils vont... Il y avait des indications sur ce point qu'ils vont consolider les deux. Peut-être la pire des situations, ça serait qu'ils virent les gens de la communication de chez Blizzard, et c'est possiblement ce qui va arriver, qu'ils gardent que quelques postes pour coordonner et qu'ils amènent toute la communication du côté d'Activision en ne touchant pas aux développeurs de chez Blizzard. Donc je pense que les jeux vont continuer à être... que le développement des jeux ne va pas être impacté. On verra si je me trompe quand on aura l'annonce, mais je ne pense pas qu'ils vont virer des développeurs. J'y crois pas. Peut-être que je me trompe. Mais c'est que ça peut quand même avoir un effet négatif, parce que l'une des caractéristiques de Blizzard qu'on avait depuis longtemps, c'est qu'il y a un équilibre hyper important, qui est même biaisé en faveur du développement, entre le développement et le marketing. C'est vraiment le traditionnel dans les entreprises, la force du produit et la force de la communication. Généralement, dans les entreprises, la communication a plus de force. C'est la communication qui prend les décisions. Je vous donne un exemple. Si la communication dit « on a besoin d'un jeu à tel moment », on le sort à tel moment. Et voilà, qu'il soit prêt ou pas. J'exagère, je prends un cas extrême, mais c'est pour l'exemple. Chez Blizzard, on avait vraiment cette force, malgré ce que les gens peuvent dire sur Battle for Azeroth, etc. Je vous assure que c'est pas comme ça que ça marche. Chez Blizzard, c'est le développement qui décide. Alors évidemment qu'il y a des considérations à prendre en compte sur le calendrier, etc. Mais c'est le développement qui décide. Et si la communication est déportée chez Activision, je ne sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir sur cette dynamique. Donc, c'est ça qui m'inquiéterait un peu. Mais voilà, moi, c'est ce que je crois, ma petite prédiction. Encore une fois, elle ne va pas durer longtemps parce que dans 24 heures, on saura tout. Mais c'est ma petite prédiction sur la manière dont ça va se passer. Et effectivement, ça amène quelques préoccupations. Mais la manière de juger l'avenir de Blizzard, parce que c'est de ça qu'on s'inquiète le plus finalement dans les cercles gamers, c'est pas sur tout ça. Ça, c'est des problèmes moraux sur les sociétés. Et Blizzard est généralement une société qui essaye de faire un petit peu mieux à ce niveau. On sait qu'ils essayent de faire un petit peu plus pour la représentativité, qu'ils essayent de faire... Ils font des efforts ces derniers temps sur tous ces sujets quand ils deviennent importants, quand on s'en rend compte, en fait, quand l'industrie mature. Ils ont parlé du crunch, par exemple. Ils essayent de pas faire beaucoup de crunch, etc. Mais... Toutes ces questions, en fait, sont à part. Et quand les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler, ils ont genre 10 studios de développement, quand les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler sortiront, là, on aura la réponse vraiment sur l'avenir de la société. Mais la qualité des jeux qu'ils produisent et l'aspect moral de la société, encore une fois, c'est deux sujets différents dont il est légitime de s'inquiéter de l'un comme de l'autre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux et qui sont mécontents de la qualité des jeux et qui donc se disent qu'ils n'aiment pas la société. Et c'est là, ça aussi, c'est compréhensible. Mais là, on n'a pas vu de jeu Blizzard depuis 3 ans. Donc, on ne peut pas juger de la qualité des jeux Blizzard, puisque en ce moment, c'est que des jeux qui ne sont pas en fin de vie, mais enfin qui sont sur en maintien faible, ce qui est frustrant. Mais les jeux qui sont en train de développer seront peut-être satisfaisants. Bref, Je mélange un petit peu tout, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'analyse que j'en fais. Et encore une fois, l'aspect moral est important aussi. Et là, c'est la première fois que je me dis, il y a un petit souci, quoi, parce que Activision Blizzard fait énormément d'argent. Leurs managers, ils font énormément d'argent, ils se payent beaucoup. S'ils se mettent à renvoyer des gens qu'ils laissent sur le bord de la route sans aucune aide, c'est problématique. C'est-à-dire que si, faut pas se leurrer, une société est une société. S'ils ont pas de jeu à venir pendant, ils en ont pas depuis 3 ans. S'ils disent on a encore 1 an et on est une société, on a des actionnaires, il faut qu'on les contente aussi. Donc on va réduire les coûts. Comment on réduit les coûts? On a 2 équipes de communication qui sont redondantes. Ça n'a aucun sens. On va en virer 90% d'une d'entre elles et celle qui reste va faire le boulot pour tout le monde. Ok. Ça se comprend jusque-là. La question qui reste, c'est comment on les vire? Est-ce que c'est « Ok, demain, t'es à la rue, sans un sou, merci, au revoir ». Oui, là, on est d'accord que ça va poser un problème. S'ils disent « Bon, les gars, désolé, on est dans cette situation, on va vous filer, 6 mois, 1 an de salaire, on va vous filer de la formation, on va vous aider à retrouver quelque chose », ça change l'approche du truc. Donc,
oui, bien sûr.
Bon, on verra. Dans 24 heures, tout ce qu'on aura dit pourra n'avoir eu aucun sens. Bon, continuons très rapidement. Marshmallow a fait un concert dans Fortnite. Encore, Marshmallow, c'est un DJ qui monte en ce moment. Je le connais pas, donc ça se trouve, il est très connu depuis très longtemps, mais Fortnite, concert dans Fortnite, encore une fois, chaque épisode de cette émission, il y a un truc incroyable dont je parle avec Fortnite et la manière dont ils sont, dont ils expriment le génie de la gestion de ce jeu, quoi. Concert, tous les gens connectés à Fortnite avaient pendant 10 minutes l'avatar de Marshmallow qui avait ses mouvements mappés sur son avatar, donc il faisait sa musique et tout, on entendait la musique, il y avait une grande scène, et puis au bout de 10 minutes c'était terminé, tout le monde dansait sur tous les serveurs, au bout de 10 minutes c'était terminé, tout le monde s'est retrouvé lancé dans les airs, et ils ont réatterri pour se tuer, évidemment c'est Fortnite, mais c'était hyper malin quoi.
Apparemment, moi, de ce que j'ai vu, hein, mais j'ai plus le nom en tête, mais j'avais vu des commentaires qui disaient que ça avait déjà été fait dans d'autres jeux vidéo, des concerts comme ça en live. Je crois que c'est un jeu de basket, mais je suis pas sûre.
Ah, d'accord, mais j'en avais pas entendu
beaucoup moins parler. Mmh.
Ouais. C'est Fortnite, forcément. Ça fait plus de bruit. Apple serait en train de travailler sur un service d'abonnement au jeu. C'est un peu surprenant, surtout pour une plateforme où la plupart des jeux sont gratuits. Mais justement, je me demande s'il y a un système d'abonnement à la Netflix, machin, qui serait forcément, je pense, moins cher que Netflix. On sait que le PS Plus, le Xbox Live, c'est $5 par mois si on paye à l'année. Là, j'imagine que ça serait plus proche du prix du Switch Online, peut-être $3 ou $4. Est-ce que ça pourrait justement aider des jeux payants à avoir de la visibilité, à récupérer un peu d'argent, parce que tu vas pas mettre des jeux gratuits dans ce système d'abonnement, ça n'aurait aucun sens. Est-ce que ça pourrait permettre d'amener des jeux payants dans l'écosystème d'Apple? Je sais pas.
Pour moi, ça permettrait peut-être surtout de... Il y a tout un écosystème, un nombre de jeux indés très qualitatifs qui sont sur mobile. Je pense à des Florence, je pense à des Another Lost Phone, etc., qui, pour le coup, pourrait se faire davantage connaître avec ce système d'abo. Après, moi, j'ai toujours peur sur un système d'abo, c'est comment on rémunère les gens, en fait.
Si t'as un
système d'abonnement
ça.
À 3 euros, il faut mettre des jeux qui valent au moins 7-10 euros dedans pour que ça ait un intérêt. Allez, 5 euros si t'es le moins généreux, mais encore, du coup, ça n'a plus trop d'intérêt si tu peux pas choisir ton jeu. Mais du coup, tu récupères 3 euros, tu donnes 2 jeux à 5 euros chacun. Comment tu rémunères les développeurs là-dessus, en fait?
C'est souvent des jeux qui ont déjà fait le gros de leurs revenus. Donc, c'est des jeux qui ont au moins 1 an, 2 ans, qui peuvent avoir une petite...
Mais pas toujours, hein. On le voit avec les origines où il y a Antenne dedans au premier jour, etc.
Oui, mais Origin, c'est différent. C'est EA qui a son propre service et qui donc inclut le jeu qu'ils éditent. Après,
dans les abonnements d'Electronic Arts, il n'y a pas que des jeux. Enfin, dans l'abonnement Origin, il n'y a pas que des jeux de chez eux.
T'es sûr? Moi, je crois bien que c'est que des jeux de chez eux, ou alors c'est des jeux plus vieux. Hein.
Oui, c'est des jeux plus vieux, mais en même temps, Fury de The Game Maker qui est chez eux.
Oui, oui, d'accord.
C'est pas que des jeux vieux. Mais
oui,
si,
mais
en fait,
tu vois, Fury, il a quoi, 2 ans, 3 ans, c'est...
Oui, mais tu vois, enfin, pour l'instant, c'est comme ça, et on est au début de ce système-là, qui dit que dans 5-6 ans, là, ce sera plus, enfin, dans 10 ans, 15 ans, l'écosystème sera pas, on n'a que des abonnements. Et on achète plus.
C'est
quoi.
Le problème. C'est exactement le problème, effectivement. Quelle est la manière dont l'écosystème évolue? S'il y a tellement d'abonnements que du coup, c'est plus intéressant d'être abonné à 3-4 services différents et de plus acheter ces jeux. C'est certain que ça. D'autant plus que Apple y réfléchit et ils auraient aussi un service de streaming. Donc, ils rentrent. Ça serait. On ne sait pas si ça serait en streaming ou pas en streaming, mais donc ça rentre encore dans cette tendance de l'abonnement pour tout. Ouais, ça c'est une question qui est compliquée, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Je vais juste dire un nom de jeu, Auto Chess. Auto Chess, c'est un jeu qui est, enfin c'est un mode de Dota 2 qui a énormément de succès, qui est une sorte de mix entre jeu de cartes et Tower Defense, et que, enfin jusqu'à ce que Apex Legends sorte, tout le monde en parlait, et j'ai l'impression, je me demande si Apex Legends a pas tué un petit peu le momentum d'Auto Chess, mais c'est un truc en développement qui est pas hyper bien fini encore, mais dont il est pas impossible qu'on réentende parler comme un jeu indépendant justement. Assez bientôt, moi je pense que, enfin, ça fait tellement de bruit qu'il est possible qu'il le peaufine et qu'il sorte en jeu standalone, quoi. Je voulais le mentionner parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Quantum Dream, à la rubrique toutes les sociétés du monde sont en train de recevoir des capitaux chinois. Quantum Dream a reçu un investissement important de NetEase pour ses jeux pour les prochaines générations. Et donc, évidemment, ils seront plus exclusifs Sony. Donc voilà, NetEase, encore eux, entre NetEase et Tencent, on a à peu près l'ensemble des jeux du monde. Pardon ?
C'est-à-dire, pour une fois, que ce n'est pas Tencent.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. PlayStation Plus, on parlait des abonnements. Ce mois-ci, ne ratez pas les jeux proposés sur le PlayStation Plus si vous y êtes abonné. Hitman et For Honor, qui sont des jeux hyper appréciés, lesquels vous pourriez jouer entre guillemets gratuitement. Et vous avez en plus 100 gigabits sur votre cloud storage pour vos sauvegardes. Je ne sais pas qui utilisait les 10 gigabits, mais maintenant, vous avez 10 fois plus. Donc, voilà. Quoi d'autre? Allez, on va conclure avec le pass culture du gouvernement, avec lequel vous pouvez acheter des jeux vidéo. Vous connaissez peut-être le pass culture, c'est un pass, enfin une somme de 500 euros qui est donnée à tous les jeunes qui ont 18 ans, qu'ils peuvent utiliser, alors soit pour aller dans des musées, voir des expos, etc. Là, il n'y a pas de limite, soit sur des abonnements en ligne ou des jeux, ce genre de choses. Là, il y a des limites, genre on ne peut pas faire plus de 200 euros par catégorie. Et on a eu la confirmation que ça pouvait être utilisé pour les jeux vidéo qui participent à ce programme, sauf que visiblement il n'y a pas d'argent qui est reversé aux sociétés qui sont incluses dans le programme. Donc bon, ça concerne que des sociétés françaises qui ont bénéficié de l'aide du CNC, visiblement. Donc, il n'y aura pas de GTA, de Fortnite, de Apex Legends, etc. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est... en fait, les sociétés doivent fournir gratuitement le code de téléchargement et ils ne reçoivent pas l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette histoire? Je ne comprends pas bien.
Le problème vient que le pass culture a décrété que tous les contenus numériques qui étaient présents dessus, ils ne reverseraient pas d'argent. C'est-à-dire que c'est pareil pour la presse. Si dans le pass culture, on peut s'offrir c'est Canard PC qui avait soulevé ça sur leur Twitter, s'ils veulent mettre l'abonnement de Canard PC sur le pass culture, par exemple, si c'est l'abonnement numérique, ils ne recevront pas d'argent parce que c'est numérique, donc ça ne leur coûte rien.
Donc l'idée est que ça ne leur coûte rien ? C'est ça la logique du truc ?
C'est du virtuel, il n'y a pas de coût obligatoire, quoi.
Mais on est d'accord.
Le fameux mythe du parce qu'il n'y a pas de production physique, ça coûte rien parce que les gens qui créent la chose derrière, on ne les paye pas.
Mais le truc, c'est que, disons, mon pass culture, j'ai 500 euros de pass culture. Il y a un jeu qui coûte, 30 euros. Moi, je vais quand même avoir les 30 euros débités de mon pass culture. On est d'accord pour acheter le jeu. Mais par contre, donc c'est en fait un moyen de réduire la quantité d'argent donnée au pass culture, quoi, finalement.
C'est ça. C'est que tu as l'impression d'avoir 30 euros, mais en fait, ça n'a rien coûté à l'État, vu que c'est quelque chose qu'il a obtenu gratuitement derrière. Moi, je me demande concrètement quel est l'intérêt d'être dans le pass culture, parce que on vous donne de la visibilité, oui, bah, qui va voir ton jeu à part ceux qui peuvent le prendre sans le payer.
C'est... Oui, parce que c'est la réponse.
Télécharger l'application.
C'est la réponse qui a été faite, effectivement. C'est vous êtes oui, mais vous avez de la visibilité. Ce qui est devenu, c'est un petit peu surprenant comme réponse, parce que c'est vraiment devenu le mime des gens qui demandent d'avoir des trucs gratuitement. C'est genre ah, je te paye en visibilité. Genre je vais acheter mes pâtes et payer mon loyer avec de la visibilité, quoi. Super.
C'est ça. C'est les propriétaires, ils acceptent pas encore la visibilité en paiement du loyer. Quoi. Mais
ce qui serait pas mal.
Mais non, mais et que le gouvernement contribue à ça, c'est assez hallucinant pour moi, quoi. Enfin, ça relève ça à second rang, c'est-à-dire payer pour aller voir un spectacle et donner de l'argent au théâtre, oui. Par contre, pour les jeux vidéo, quand même, c'est un peu ça, en fait. Enfin, même si là, pour le coup, il n'y a pas que les jeux vidéo concernés. Mais moi, ça me semble tellement scandaleux. Mais je pense que le résultat, ça va être très simple. Hein. Je ne vois pas quels jeux vidéo vont se mettre là-dedans, quoi. Même les jeux vidéo français. Enfin, si, ceux qui ont quelques années et qui ont envie que les gens jouent à leur jeu parce qu'ils trouvent ça cool et qu'ils ne sont peut-être pas vendus. Mais à part ça, il n'y aura rien, quoi.
Ouais, ouais. Et tu disais, c'est la même chose pour la presse. Est-ce qu'il y a des offres d'autres types de publications, genre, je ne sais pas, Le Monde ou Le Figaro, ou c'est pas considéré comme culturel?
Je sais pas. D'accord. Et je sais pas, ça serait peut-être à creuser. Ça, mais apparemment, ce qu'avait soulevé Canard PC, c'est que si tu mettais un abonnement presse en ligne, vu que, en fait, de base, la réglementation, alors là, encore une fois, je dis ce que j'ai compris, je suis pas sûre à 100%, mais ça serait que tous les contenus numériques ont un reversement de la part de l'État. Donc, dès l'instant où c'est pas du physique, acheter une place pour un spectacle physique, ça marche. Ça voudrait dire que payer pour une vidéo, dans cette logique, payer pour une VOD d'un film ne marcherait pas non plus.
Déjà, ça, c'est tout un problème à la base. Mais moi, il y a encore un autre truc qui me gêne en parallèle, c'est le fait que, du coup, ça veut dire concrètement une réduction du coût de ce pass culture pour l'État. Si à la limite ils avaient voulu faire ça, genre on vous fait un bouquet gratuit en plus de tout ce qu'on donne, ou même disons ils auraient réduit, je sais pas, à 400 euros le pass culture, et ils auraient dit en plus de ça tout le monde a droit à 100 euros de valeur d'abonnement à tel truc et tel truc pour les publications et les jeux vidéo et les trucs en ligne et les trucs numériques qui participent. Et donc, tout le monde a droit pendant un an à, je sais pas moi, un abonnement à Canard PC s'ils veulent participer. Mais on dit pas, on donne 500 euros et puis vous pouvez vous abonner à Canard PC qui coûte, je sais pas, 50 euros pour cette formule d'abonnement. Donc, on vous débite les 50 euros de votre passe culture, donc il vous en reste plus que 450. Mais par contre, Canard PC va pas toucher les 50. Donc,
en fait, ce qui est très sale, c'est que ça donne l'impression à la personne de le payer et de rémunérer les créateurs derrière, alors qu'en fait, pas du tout.
Ouais, ouais. Bon, donc, on touche là encore à quelque chose d'un peu plus vaste que le jeu vidéo, mais c'est vrai que là où c'est très frustrant, c'est que ça donne cette image du jeu vidéo et du numérique qui est genre « Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est dématérialisé, donc ça requiert pas vraiment d'argent », qui est tout ce dont, tout ce contre les gens comme nous se battent, cette image dont les gens comme nous, contre lesquels les gens comme nous se battent depuis longtemps, quoi. Donc, bon, bref. Voilà pour la dernière news que je voulais couvrir et finir dans la bonne humeur. Vous savez quoi ? Plutôt que de finir comme ça, je vais juste dire Apex Legends, c'est quand même un super bon jeu que tout le monde apprécie, dont personne ne se plaint, ni même des aspects monétisation, et c'est quand même un jeu publié par EA, quoi. Et EA est en train d'avoir un buzz hyper positif sur un jeu qui n'existait pas la semaine dernière. C'est quand même une preuve que tout peut arriver dans ce monde, et même le meilleur. Donc ça me donne le sourire. Moi, je suis quand même hyper content de ce nouveau développement, quoi. Écoutez, ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Un immense merci à Mylène d'avoir prêté son expertise à l'analyse de toutes ces informations. Si les gens veulent un petit peu plus, est-ce que tu as des endroits en ligne dont tu pourrais nous parler pour qu'ils y aillent ?
Mon Twitter, _Conala_.
tout simplement, et le lien sera évidemment dans les notes de l'émission, _ Konala _. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver avec toutes les infos, toutes les news sur toutes ces plateformes. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr. Si vous appréciez cette émission, peut-être que vous apprécierez le rendez-vous tech où on fait la même chose avec les news tech, mais là, toutes les semaines. Et voilà, ça va être tout. On reviendra dans 2 semaines environ pour un nouvel épisode où on parlera peut-être encore un petit peu d'Anthem et d'autres jeux. Il y a des trucs qui arrivent au mois de mars, donc on aura peut-être des choses à dire sur ces sujets-là. J'espère que vous avez apprécié nos discussions. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à aller sur frenchspin.fr pour laisser des commentaires. Toujours réfléchi, bienveillant et constructif, évidemment, comme c'est le cas avec la communauté de l'émission. Je vous remercie par avance et je vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous.
Allez.